Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Méditer un texte dans la parole de Dieu. J'ai remarqué que dans les cantiques que nous avons chantés, que nous chantons régulièrement, il est souvent fait mention de Jésus le roi. On l'a chanté à plusieurs reprises ce matin, sa majesté, son autorité, sa divinité, alors sa suprématie. Eh bien, c'est le sujet que j'aimerais que nous abordions, Christ le roi Messie. Et dans un contexte tout à fait particulier, c'est dans l'évangile de Matthieu. Pourquoi Matthieu ? Parce que Matthieu est véritablement l'auteur dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui met en évidence la royauté de Jésus. Alors, je vous propose pour ce faire, eh bien, que nous lisions dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28... Voilà, chapitre 28. Et au verset 16. Et je ferai un commentaire sur ce texte et puis bien d'autres également. Alors, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur nous bénisse à travers cette parole. Et nous allons, en effet, eh bien, évoquer la royauté de Jésus. Vous savez que lorsque les mages sont venus auprès de ce petit enfant, ils lui ont offert des cadeaux, des présents. Et entre autres... Eh bien, il y avait de l'or, et c'est tout à fait la caractéristique et le symbole de ce que l'on offre à un roi. Et là aussi, il nous est dit qu'ils l'adorèrent. À la croix, à l'autre extrémité de la vie de Jésus, vous en souviendrez, le chef d'inculpation que l'on va porter contre Jésus, c'est qu'il se fait roi. Et puis, dans bien d'autres textes de la Bible, dans l'Ancien Testament, où c'est à peine voilé la royauté de Jésus. Et puis, dans les épîtres de Paul, il nous est dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, pourquoi l'évangile de Matthieu ? Parce que il est très intéressant de prendre en considération le nombre de fois où il est question de Jésus roi dans cet évangile. Dans l'évangile de Marc, il est présenté Jésus le serviteur. Son message à Marc est un message à destination des pays latins, les Romains, enfin tout le monde, l'Empire en quelque sorte, l'Empire romain. L'évangile de Luc, eh bien, présente Jésus comme l'homme parfait, accompli, et ses messages étaient destinés pour le monde helléniste, c'est-à-dire le monde grec. Et puis, quant à Jean, autre dernier évangile, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu. Et cela, c'est un message particulièrement pour toutes les générations, pour nous encore aujourd'hui. Mais quant à Matthieu, il est bien question, eh bien, de Jésus, le roi des rois, le roi Messie. Si l'on veut comprendre le message de l'évangile de Matthieu, alors il faut lire cet autre texte. Ce sont des préambules que je suis en train de faire. On va prêcher rapidement ce matin. Mais toujours est-il, au chapitre 18 de Jean, verset 33, voilà un peu ce que nous découvrons, ce que nous lisons. Et donc, il nous est donc montré d'une manière très claire, parce qu'il s'agit de la confrontation de Jésus le roi avec un grand gouverneur de l'Empire qui s'appelle Pilate, et voilà ce que je lis. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Et Jésus de répondre « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi. » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. » Voilà pour cette compréhension peut-être de cet évangile à travers cette affirmation. D'abord, qui est Matthieu? Parce que c'est intéressant, pourquoi Matthieu a-t-il eu à cœur de souligner, de surligner la royauté de Jésus? Qui est Matthieu? On connaît son autre nom, il s'appelle Lévi. Et le mot Matthieu, le prénom Matthieu, le nom de Matthieu veut dire tout simplement « don de l'Éternel ». Il est juif, il est publicain, par surcroît son état est d'être percepteur au compte, pour le compte de l'occupant, et puis il devient disciple de Jésus sur un appel étonnant, puisque Jésus va lui dire simplement deux mots « Suis-moi ». Il a tout laissé et il a suivi Jésus. Nous voyons que son appel est décrit dans l'évangile de Luc au chapitre 5, vous pourrez le relire. On sait que, puisqu'il est comptable, et il est habitué naturellement à tout cela, alors il est, puisqu'il est percepteur ou tout simplement collecteur d'impôts, alors il est habitué à manier la plume. Et pour vous dire que quand Dieu appelle un homme ou une femme, c'est qu'il connaît ce qu'il va devenir en fonction de ce qu'il est, ou de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris, de ses compétences en quelque sorte. Et c'est ce qui va se passer pour Matthieu. Donc, il est habitué à manier la plume, à mettre en ordre, comme tous les comptables, il recueille les propos, les faits et les gestes de Jésus. Et finalement, quand il aura terminé de collecter toutes ces informations sur la venue du roi des rois, ça fera quand même un livre de 28 chapitres. L'évangile de Matthieu, c'est le plus important. Il fera 129 références à l'Ancien Testament. Il est l'évangéliste des Juifs. C'est pourquoi il ira puiser dans l'Ancien Testament. Il apportera 53 citations et 76 allusions au livre sacré des Juifs. Et nous voyons qu'il trouve sa place. Et c'est vrai que quand on considère les quatre évangiles et la personnalité des quatre évangélistes, on comprend que Dieu les ait choisis pour une mission bien particulière, chacun avec une destination, chacun pour des destinataires particuliers, non seulement dans le cas qui nous intéresse les Juifs, mais pour les hommes du monde entier de toute langue. Nous voyons que l'introduction de son évangile est marquée par le Sermon sur la montagne, dont nous parlons en ce moment puisque nous en faisons une étude. Sermon sur la montagne, c'est un véritable monument. Et puis ensuite, il parlera, ou même en premier abord, il parlera de la généalogie de Jésus, le roi, et il la fera remonter jusqu'à Abraham, pour bien montrer la lignée, les racines juives du Messie, en passant par David, puisque on l'interpellera. Jésus, fils de David. C'est Matthieu qui en parle le plus et le situe justement dans cette lignée de David, puisque Matthieu en fera état 9 fois dans son évangile qu'il est le fils de David, alors que les deux autres, Marc et Luc, n'en parleront que 2 fois. Donc on voit un peu de la situation, la racine, l'enracinement. Nous voyons que le style de Matthieu et la pensée est typiquement hébraïque. C'est vraiment pour les Juifs. C'est vraiment pour des hommes qui ont la connaissance déjà de l'écriture, des textes. Et je peux dire ce matin que son évangile, c'est un véritable chef-d'œuvre. Non à cause de son importance, mais il est destiné donc à ses contemporains, à ses concitoyens. Matthieu tente de répondre dans ses écrits aux préoccupations de ses contemporains, les Israélites, les questions qu'ils se posent. Ils sont tous porteurs, ces hommes, et bien d'une espérance au fond de leur cœur. Parce que depuis des siècles et des siècles, le terrain était ensemencé par les prophéties, par les prédictions. Et ils ont la connaissance, finalement, eh bien, ces Israélites. Et il écrira cela, naturellement comme les autres, dans un temps troublé, l'occupation romaine. Les problèmes, il touchera les problèmes existentiels au quotidien des hommes. Il parlera finalement de l'espérance messianique, il en fera, eh bien là, en quelque sorte, le socle de ses écrits. Et il est le premier à faire mention de ce nouveau mouvement, de cette nouvelle société, en quelque sorte, qui invite et qui accueille les juifs et les païens à s'unir dans un nouveau corps qu'on appelle l'Église. C'est lui qui écrit ça au chapitre 16. Il fait la première mention de l'Église. Et ça, c'est extraordinaire, parce que, quelque part, eh bien, il ouvre déjà, puisqu'il est la transition, c'est le premier évangile, transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et il parle, le premier, eh bien, de ce courant qui va envahir le monde entier, à travers les siècles, à travers les empires, à travers tout ce qui pourra survenir sur cette terre depuis 2000 ans, et qui va remplir le monde, c'est-à-dire le christianisme. Et tout cela autour du sauveur de tous, à la fois des juifs et des non-juifs. Alors le thème de l'évangile de Matthieu, eh bien, est rappelé en quelque sorte, puisqu'il nous parle du roi, il nous parle de Jésus, dans Zacharie, je cite, hein, vous pourrez toujours consigner la référence, mais écoutez bien, dans Zacharie, ça traverse les temps et ça vient jusqu'à nous, et certainement ça a été profondément imprégné, inscrit dans l'esprit de Matthieu quand il a écrit, il dit ceci, « Sois transporté d'allégresse, fils de Sion, fils d'Israël, si vous voulez, fils de Jérusalem. Pousse des cris de joie, fils de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Je trouve que ce sont des paroles extraordinaires parce que c'est toute la... en quelque sorte, la personnalité du roi. Le roi et Israël étaient appelés à se réjouir, à pousser des cris, à transporter d'allégresse, des cris de joie. Voici ton roi vient à toi, il est juste, victorieux, il est humble. Et vous savez que dans l'histoire ancienne d'Israël, on ne promenait pas les rois sur des chevaux, on les promenait sur des ânes, qui étaient un signe de royauté, un signe royal. Jésus-Christ roi, nous dit, eh bien, Matthieu. Un royaume, c'est celui de Dieu que l'on appellera le royaume des cieux. Royaume de Dieu, royaume des cieux. Le plan de son évangile est très simple. Et on s'en est servi pour, dans toutes les communautés chrétiennes, souvent pour faire ce qu'on appelle pudiquement le catéchisme aux enfants. Parce que la chronologie est très bien marquée. C'est un évangile qui est mémorable, enfin donc de mémoire, et nous voyons que sa chronologie, le plan est très, très, très distingué. Et ça commence par la généalogie, nous en avons parlé tout à l'heure, donc l'incarnation du roi. Ensuite, vous avez l'enfance du roi. Vous avez la présentation du roi dans le temple. Vous connaissez ? Il est question ensuite... des citoyens de ce royaume, comment devenir citoyen de ce royaume, les principes moraux du royaume de ce roi, Christ, c'est-à-dire le sermon sur la montagne. Nous avons également les règles de vie dans son royaume, ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, ce que l'on dit, ce que l'on ne dit pas, avec finalement en haut de la pyramide, ce qui distingue et ce qui fait la grande différence, c'est la foi et l'amour. Nous avons également la manifestation du roi, par rapport à cette autorité qu'il a reçue d'en haut, dans les guérisons, dans les miracles, la manière dont il parle, et nous voyons que tout est marqué de compassion et de sagesse dans cette royauté, dans son royaume. Nous accueillons également, nous découvrons également eh bien, son accueil en Israël. Les uns l'acclament, peu nombreux, le reconnaissent comme le roi et le Messie, mais beaucoup se détournent. Donc ça, c'est son accueil. La formation des disciples, parce qu'il y a énormément d'éléments qui nous montrent comment devenir disciples dans l'évangile de Matthieu autour de ce roi. Parce que nous ne sommes pas seulement des sujets, nous sommes des fils et des filles. Et nous devenons des ambassadeurs, nous sommes des serviteurs dans ce royaume. Et ça, c'est Matthieu qui le montre. Et autour, finalement, de tous ces enseignements merveilleux, paraboliques également, nous avons à un moment donné, en tournant les pages de cet évangile, la réjection du roi. Comment les choses vont basculer alors que la terre a été frappée des miracles du ciel, des choses extraordinaires jusqu'à des résurrections des morts, des multiplications des pains, toutes sortes de choses que les hommes n'avaient jamais vues, puisque on dira « jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Les gens vont être éblouis, vont être époustouflés de voir finalement ce qui se passe dans le ciel descendre sur la terre, pour les affligés, pour la consolation, pour la guérison, pour la délivrance, et de voir qu'à un moment donné les choses vont tourner sous l'inspiration du malin dans ce rejet du roi, qui le conduira finalement jusqu'à sa crucifixion. La résurrection du roi également est marquée d'une manière très significative. Et puis l'ascension du roi vers son royaume, mais en nous promettant qu'il reviendrait nous chercher pour que nous soyons avec lui. Je vous ai tout annoncé d'avance, nous dira Jésus. Et nous avons cette marque particulière dans l'évangile que nous avons lu, enfin toujours le même évangile de Matthieu naturellement, où Jésus avait donné après sa résurrection rendez-vous à ses disciples sur les montagnes, sur la montagne de Galilée. Et là, il nous est dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Le roi que l'on adore, le seul que l'on adore. On fait allégeance à un roi humain, mais on adore le roi des rois, et lui seul. Et nous voyons que, malgré cela, certains ont eu des doutes. Est-il le roi? Mais la question n'était peut-être pas tant à se poser s'il était le roi. Est-il réellement mort? Est-il ressuscité? C'est là peut-être l'objet des doutes. Mais c'est marqué, et c'est marqué ici dans l'évangile. Alors, Jésus leur a dit ceci, cette parole qui marque sa suprématie et sa souveraineté. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Les rois ici-bas règnent sur la terre, localement, régionalement, nationalement, dans un petit royaume plus ou moins grand, ou un grand ou un petit, je ne sais pas. Mais toujours est-il, éventuellement peut-être un empire, mais c'est toujours sur la terre. Que lui, c'est dans le ciel et sur la terre. Mais le royaume dans lequel il veut régner, suprêmement, c'est avant tout dans le cœur de l'homme. Parce que tout change à ce moment-là. Alors, et ces enseignements formidables, quand il est question, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris à observer. Lorsque nous sommes citoyens, mieux encore, sujets, lorsque nous sommes fils et filles de ce royaume, nous avons des règles, et notre roi nous les a enseignées. À travers le message de l'Évangile, et pour que nous devenions, ses disciples, ses suivants en quelque sorte, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit pour qu'ils le refassent. Et il nous est donné aussi des promesses extraordinaires, parce que Jésus dira, moi je vais monter dans mon royaume, je partirai dans mon royaume, je reviendrai vous chercher. Mais quand je serai parti, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité naturellement. Et avec cette promesse extraordinaire pour nous, parce que c'est pour nous aujourd'hui, quand il est question des miracles et des signes, et il dira, mais ils en feront encore de plus grands miracles que moi, dans le temps et dans l'espace, naturellement nous l'avons compris, parce que nous sommes réellement ses ambassadeurs, nous sommes réellement ses serviteurs, nous sommes ses disciples, mais nous plus que cela, nous savons que notre roi est pour nous, plus que tout cela. Nous sommes ses fils et ses filles, et le lien qui nous unit, c'est l'amour. Et puis, il y a une chose que je voudrais signaler également, c'est que Jésus, non seulement a accompli toutes les prophéties, le roi, Jésus le roi a accompli toutes les prophéties pendant des siècles et des siècles, qui sont contenues dans prédictions sous la forme de l'Ancien Testament, non seulement il les a accomplies, mais lui-même va prendre le relais prophétique, et ça nous l'avons dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc, où il apportera la notion, la connaissance, la préparation des temps que l'on appelle eschatologique, c'est-à-dire le retour, son retour, et de lever la tête. Finalement, quand vous voyez le figuier qui commence, eh bien là, à reverdir et porter des fruits, alors levez la tête parce que le retour de Jésus est proche, le roi revient. Donc ça, c'est pour le plan, en quelque sorte. Matthieu met en évidence que Jésus est loin de Dieu. Christos, loin. Il est loin de Dieu, le vrai roi Messie. Il est fils de David, nous l'avons dit, et il est venu non pour une en vue d'une délivrance politique, comme certains l'avaient pensé. Et je crois que quand on regarde les choses, on s'aperçoit que même certains disciples se sont fourvoyés, à commencer par Judas. Ils pensaient que leur royaume serait établi par la puissance du miracle et surnaturel de Jésus, mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est pour ça que dans sa déception et dans son désarroi, il est allé se pendre, parce que c'était en dehors, finalement, de toute cette compréhension et de cette perspective humaine. Délivrance non politique, mais il est venu apporter davantage une espérance au fond des cœurs et un royaume éternel. Et le programme de tout ce message, c'est qu'il est un roi de paix, il est un roi d'amour et il est un roi de justice. Alors, de l'Ancien au Nouveau Testament, nous voyons que Matthieu est la transition en quelque sorte. Et il écrira, et notamment ce dernier chapitre 28, c'est en quelque sorte le testament du roi Dieu Sauveur. Il y a quatre points capitaux qui marquent les écrits de Matthieu sur la royauté de Jésus. C'est sa puissance, c'est son message, les paroles d'amour que Jésus a données, c'est son obéissance et c'est sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il est présent. Et cette parole que nous retrouvons et que nous avons lue et que je relis pour la troisième fois, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Son pouvoir, en d'autres termes, nous avons besoin de comprendre qu'il s'agit d'une autorité, pas de l'autoritarisme, mais une autorité qui vient du ciel, une autorité qui vient du Saint-Esprit et qui a commencé le jour de son baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et qu'est-ce qu'il est dit après ? Écoutez-le. Écoutez-le. Quand un homme qui a une autorité suprême, quand un homme est roi ou président, on écoute ses discours, enfin, on écoute. Et ce qu'il dit, c'est toujours quelque chose de mesuré, c'est toujours quelque chose qui, naturellement, est fait pour rassembler le peuple. Mais quant à Jésus, il a ce pouvoir de la parole, logos. Et c'est un pouvoir royal qui n'a pas de limite. En campagne électorale, nos hommes politiques font beaucoup de promesses et quand ils sont au pouvoir, ils ne peuvent plus faire les choses comme ils avaient pensé devoir les faire. Parce que bon, c'est comme ça. Mais nous pouvons dire que le pouvoir de Jésus en tant que roi est sans limite. Il n'y a pas de restriction. Il s'étend à tout l'univers. C'est pas seulement la terre. À tout l'univers, dans le firmament, à tous les hommes et à toutes choses. Et c'est ce qui fera écrire cette belle épître à Paul que l'on appelle l'épître aux Éphésiens. Parce que Christ, encore là, est roi, mais il est roi dans le ciel. Seigneur des seigneurs et roi des rois, nous l'avons dit. Et c'est quelque chose qui mérite véritablement notre attention. Jésus est venu en ambassadeur, que nous sommes devenus à notre tour, ambassadeur du roi tout-puissant, c'est-à-dire de Dieu. Et nous voyons que cette ambassade a été marquée par la guérison, par la délivrance, par le salut. Alors il pourra dire à tous, comme nous l'avons entendu ce matin, « Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. » C'est une terre à conquérir. Mais je voudrais vous dire, et le rappeler parce que nous en sommes convaincus, que cette terre est déjà conquise. Il ne nous appartient que de le croire et d'aller. « Allez !» nous dit Jésus. Et je crois que ça c'est important parce que quelquefois nous disons, et nous nous posons la question en tant que serviteur ou en tant qu'ambassadeur ou en tant que disciple, mais qu'est-ce que j'ai à faire ? Mais nous savons déjà ce que nous avons à faire, nous avons le plan, nous avons tout ce qui nous est nécessaire, le mode d'emploi en quelque sorte. Alors il nous dit simplement allez, et c'est toutes les nations. Et nous pouvons c'est vrai, à la fois nous réjouir et être triste. Nous réjouir parce que l'évangile est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Mais triste parce que il y a encore tant et tant, à commencer par ceux qui sont les plus proches. Et qui souvent se refusent d'entendre le message du roi. Le message de ce roi que nous représentons. Un message universel. Un commandement du roi dont nous sommes à notre tour ses ambassadeurs. Et la responsabilité est bien d'aller annoncer son royaume partout dans le monde, quels que soient les moyens, quels que soient les temps, quels que soient les modes, peu importe, dans la mesure où ce message est fait avec amour. Et il vient du cœur. Il ne vient pas d'ailleurs et d'autre chose. Et de faire de chacun qui croit un homme devenu parfait en Christ. Attaché à ce roi, qui aime ce roi, qui sert ce roi, qui fait allégeance à ce roi dans l'obéissance. C'est tout un programme. Et cela, eh bien, c'est un trésor à partager, en les baptisant. C'est-à-dire qu'il y a une marque, il y a un symbole. Et je ne vais pas revenir, on en reparlera certainement. Foi et baptême. Vous savez, c'est ce que Marc, alors je passe à Marc, mais c'est ce que Marc nous dit. Que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et vous allez l'entendre peut-être pour la centième de fois de ma part, mais le salut, il repose sur la foi. Il ne repose pas sur le baptême. Bien sûr, le baptême, c'est un acte d'obéissance parce que je crois. Il est la conséquence logique et normale. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire l'étendue dans son enseignement et surtout à observer, parce que nous savons très bien qu'un enseignement qui ne produit pas l'obéissance est stérile et inutile. Un arbre mort. Et nous avons besoin, et c'est pour cela que nous sommes réunis ce matin. Et c'est pour cela que nous nous réunissons à chaque fois qu'il y a des réunions. Et que c'est pour cela que nous lisons la parole tous les jours. C'est pour ça que nous le prions, parce que finalement notre combat, notre volonté manifestée, c'est que nous puissions arriver à obéir. Alors il y a deux formes d'obéissance. Il y a l'obéissance servile et dans la crainte, ou il y a l'obéissance dans l'amour et dans la foi, par sa grâce. Et ça, ça change tout. Parce qu'on n'y arrive pas du premier coup. Mais notre roi est un roi magnanime, généreux, et qui est là pour nous comprendre, puisque nous savons que ce roi-là, à la différence peut-être des rois de la terre, il n'est pas né avec une cuillère en argent, ou dans un palais, comme on dit, mais il est né dans la modestie la plus grande, et il peut comprendre, puisqu'il nous a dit qu'il était tenté en toute chose, sans commettre de péché, et c'est lui qui nous ouvre la voie de l'obéissance. Alors, c'est tout un programme, naturellement. Les rois ont tendance peut-être à user de pouvoir de leur autorité. Et ils ne supportent pas la contestation. Je vous dirais que la même chose pour Christ. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il sait pourquoi. Et en raison du savoir du pourquoi de chacun, de nos origines, de nos misères, et qui nous amène à être ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien il est rempli de compassion pour que justement, avec le temps, en reprenant la pâte d'argile que nous sommes, nous faire et nous refaire jusqu'au moment où nous serons parfaits en lui. C'est tout un programme. Entendre une chose, mais mettre en pratique et vivre ce que l'on croit est beaucoup plus important. Alors, toujours dans l'évangile de Matthieu, Jésus illustrera cela avec une toute petite parabole magnifique. C'est l'histoire du roc et c'est l'histoire du sable. Oui. Si quelqu'un entend ma parole et la met en pratique, alors à ce moment-là, vous connaissez la suite naturellement. Enfin, et je termine, enfin, la présence permanente de notre roi. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une des plus grandes, une des plus rassurantes, une des plus apaisantes, une des plus consolantes promesses que nous avons dans notre Bible, et particulièrement, elle est la conclusion ultime de l'évangile de Matthieu. C'est les derniers mots qu'il écrit. « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur continuellement avec nous. » Jean ira dire qu'il n'est pas seulement avec nous, parce qu'il s'appelle Emmanuel, mais il est en nous. Ça change tout. Parce que je peux avoir le Seigneur avec moi, et quand il est en moi, c'est autre chose, parce que c'est sa vie qui manifeste la mienne. Elle se manifeste dans la mesure où je veux bien être repris en sous-main par son esprit, naturellement. Chaque jour, jusqu'à la fin des âges, nous est-il souligné, Et nous pouvons affirmer, peut-être pour le disciple de ce royaume qui aurait des craintes, qui serait peut-être dans des moments d'épreuve et de difficulté, qui s'interrogerait, qui serait perplexe, de pouvoir dire, eh bien, je ne suis pas seul au monde, le Seigneur est avec moi. Quelles que soient les situations et quels que soient les temps, je ne suis plus jamais seul. Un roi, on est dans un palais. Ah, peut-être notre vie, elle n'a pas les aspects d'un palais royal. Mais pourtant, nous sommes avec, il est en nous. Et vous savez que ce palais, il s'appelle le temple. Et nous sommes son temple. Ça va beaucoup plus loin que ça. Nous sommes son temple. Et c'est pourquoi David, l'ancêtre du roi des rois, lui c'est un grand roi David. Un roi qui a marqué l'histoire et dont on parle encore aujourd'hui. Non pas à cause de la Bible, mais aussi dans la connaissance historique, universelle des hommes. David pourra dire justement à cause de cette présence, à cause de cette proximité, à cause de cette intériorité de la vie de Christ en nous, eh bien, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi, tout simplement. Parce que tu es avec moi. Je terminerai simplement par le psaume 24, qui conclura un peu cette brève exhortation ce matin. Mais écoutez, parce que je crois que c'est une exhortation pour chacun d'entre nous, à laisser le roi rentrer en cours, encore de plus près de chacun d'entre nous. Vous savez, on chante ce petit cantique, « Règne en moi, Seigneur !» Oui, « Règne en moi !» Alors écoutez bien, psaume 24, et je terminerai, verset 7. « Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, car le roi de gloire, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et dans la personne de Christ, nous avons ce roi tout-puissant, ce roi de gloire, et nous voulons le suivre. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons le célébrer aussi à travers la louange et l'adoration. Nous allons avoir un temps où nous allons nous retrouver à la table du roi, c'est-à-dire le repas de Sainte-Cène, prendre le ressourcement, la vivification de nos corps, de nos âmes et de nos esprits, et nous sommes à ce festin royal. Alors nous voulons lui dire tout simplement, eh bien que nous l'aimons, que nous le bénissons, et que nous avons infiniment et énormément besoin de lui. Qu'il règne ce roi de gloire. Nous allons prier quelques instants, et les frères vont tout de suite s'approcher du repas de la Sainte-Cène. Monsieur Olivier viendra pour nous lire un texte. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta parole, parce qu'elle nous parle de ce roi que nous suivons. Elle nous parle de ce roi qui est venu nous chercher. Elle nous parle de ce royaume qui est un royaume d'équité, de justice, de vérité et d'amour dans lequel tu nous as fait entrer. Nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le royaume de Dieu, c'est aussi le royaume des cieux. Royaume de Dieu dans notre cœur aujourd'hui, royaume des cieux demain. Et nous voulons te bénir et te remercier. Nous bénissons Jésus, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Merci pour des hommes comme Matthieu qui ont pu écrire, si précisément, celui que le monde attendait, celui que le monde a besoin, celui que le monde attend, et celui, Seigneur, qui revient bientôt. Oui, Seigneur, tu es venu en tant que roi humble et humilié, mais bientôt tu reviens comme un roi glorieux, un roi tout-puissant. Merci notre Dieu. Nous bénissons ton nom maintenant, au nom de Jésus. Amen.